qu'est-ce qu'une onomatopée? L'onomatopée est une catégorie d'interjections émises pour stimuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet par l'imitation des sons que ceux-ci produisent. Certaines onomatopées sont improvisées de manière spontanée, d'autres sont conventionnelles. Elles ont des formes différentes suivant les langues.
Pourquoi les onomatopées coréennes pourraient être vues comme un patrimoine culturel immatériel?
Ah, c'est une large question. Si vous voulez que je réponde à votre question, je ne suis pas posé la question dans ces termes-là. Mais j'ai, comme tout le monde, en entrant en Corée ou en coréen, j'ai été marqué par la part importante, alors de façon comparative, comparée aux Français par exemple, de l'onomatopée et de la présence des onomatopées dans la langue et dans la littérature. Est-ce que c'est spécifique à la Corée? La façon coréenne de le faire, oui, je pense qu'en japonais il y en a autant, je pense qu'il y a beaucoup de langues africaines qui en font autant, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit, d'un point de vue typologique, qu'il y a quantité de langues un certain nombre de langues qui sont particulièrement aptes à recevoir les onomatopées et surtout à en produire. Le plus intéressant, sans doute, c'est que n'importe quel Coréen peut, là, à la seconde, produire une onomatopée qui n'existe pas et être en même temps compris par tout le monde.
Donc il y a beaucoup d'évolution en fait.
C'est comme la langue, c'est-à-dire à chaque seconde, il y a quelqu'un qui lui fait quelque chose. Alors après, ça s'appelle la néologie, c'est-à-dire quand on invente un mot ou une onomatopée, est-ce qu'elle est partagée par les autres, donc reprise par les autres? Dans ce cas-là, elle peut rester. Ou alors est-ce que c'est un événement unique et qui disparaît? La richesse d'une langue, c'est d'avoir toujours les deux et de ne pas être marqué par une norme terrifiante, un peu comme la grammaire française. Les Coréens sont assez rétifs à la grammaire. Vous le savez, vous qui êtes étudiant, vous savez à quel point vos livres de grammaire sont, disons, assez vagues. L'avantage, c'est une liberté, pour des créateurs, pour des écrivains, c'est une richesse absolument extraordinaire.
Donc justement, la pluralité de ces onomatopées pose la question de la traduction.
Directement à la question de la traduction, et il est assez amusant. Ben, j'ai toujours constaté que mes confrères coréens qui croient pouvoir traduire du coréen en français, alors qu'on traduit toujours dans l'autre sens, sont absolument unanimes. C'est on ne traduit pas les onomatopées. Et mes éditeurs sont assez d'accord avec ça, et j'ai publié quantité de bouquins où vous retrouverez crac crac, pan pan, pouet pouet, exactement comme si les klaxons et les craquements étaient parfaitement français et franchouillard. Moi, mon principe est extrêmement simple. Enfin, il est simple, mais difficile à appliquer. D'abord, je ne traduis pas des onomatopées. Je traduis des onomatopées littéraires, dans la littérature. Autrement dit, chaque fois, un écrivain a décidé que ça faisait crac ou pouet pouet. C'est lui qui le décide. Et comme il est coréen, il choisit des onomatopées coréennes. Chol-sok, soit, tulung, bon, c'est son choix, c'est son oreille. C'est un petit peu comme si vous me disiez, Beethoven a mis des notes en allemand, mais nous on est en France, donc on va mettre un do au lieu d'un sol parce qu'on préfère. Non, c'est une aberration. Certes, cette aberration est partagée par une grande majorité. C'est pas pour ça qu'elle a raison. Ça se met pas aux voix. On n'est pas dans la démocratie dans ce domaine-là. Et en littérature, non seulement les écrivains choisissent leurs onomatopées, de quel droit j'irai les changer? Je vais changer Shakespeare, parce que j'aime pas ces onomatopées. Deuxième chose, il ne s'agit pas de langue au sens strict, et donc c'est un outil qui permet de montrer au lecteur français, le texte reste beaucoup plus coréen, beaucoup plus facilement coréen, ce qu'on appelle le refus d'annexer, si on conserve ces onomatopées telles quelles. Après, il ne faut pas faire du charabia. Ce qui fait que très souvent, je prends le verbe français et l'onomatopée coréenne. C'est-à-dire que je fais une sorte de pléonasme. Mais le plus important, je pense, de votre point de vue, puisque vous vous intéressez à l'onomatopée comme bijou de la couronne coréenne, comme richesse, comme valeur, c'est la façon dont ça fonctionne. Et nous, en français, je ne crois pas que nous ayons vraiment quelque chose comme cela. Vous savez qu'en coréen, on partage les voyelles en voyelles. In, yang, un, yang, les voyelles masculines, rudes, etc. Et les voyelles féminines, douces. Excusez-moi, les lieux communs ne sont pas les miens. Et quand vous modifiez la voyelle à l'intérieur d'une onomatopée, vous pouvez jouer. C'est-à-dire que un bruit peut être fort parce qu'il contient un A ou un O, et si vous remplacez par un OU ou par un O, le bruit est moins fort. La chose que vous décrivez sera grande s'il y a un A ou un O, elle sera beaucoup petite s'il y a un OU ou un O. Et ça, vous pouvez le fabriquer avec n'importe quel mot de la langue. Il ne s'agit donc plus de nos onomatopées au sens crac-crac-pompon. Il s'agit de tout ce qui est susceptible. Alors, une définition d'onomatopée, c'est en général quelque chose qui est redoublé. Il y a deux fois la même syllabe. Et donc, on peut avoir des onomatopées de couleur, de vitesse, de son, et pas uniquement de bruit. Et dès que vous avez ce redoublement, vous pouvez vous amuser à modifier les voyelles tout le temps. Vous mettez un « i », c'est petit, c'est bref, c'est clair, c'est triste. Vous mettez un A, c'est fort, c'est brutal, c'est violent, c'est agressif, c'est grand. Et ça marche dans tous les coups, tous les coups, tous les coups. Et vous serez immédiatement compréhensible. Moi, je veux bien que vous mettiez en français pimpin au lieu de pampan pour croire que vous allez rendre compte de ce genre de choses, mais ça ne marche pas. Et donc, vous pouvez le laisser en coréen. À charge pour vous après de que votre phrase complète soit compréhensible. Il y a deux questions. La première, c'est que moi, je suis tombé dans la Corée quand j'étais petit, après des quantités d'autres pays, et donc j'ai pas appris le coréen, j'ai été imbibé le coréen. Avec les mômes à l'école, en jouant au baseball et tout, on apprend très 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 vite. Grammaticalement, ça peut être délicat, mais on apprend des tas de choses. Ensuite, pour l'apprentissage, oui, je me souviens comme je fais, mais je vais prendre un petit détour. Il y a un très très grand sémiologue coréen qui s'appelle Yeol-yeon, vous avez peut-être lu Blessure d'avril, qui essaie d'expliquer que la société coréenne, obligeant les gens à être très réservés, à ne pas utiliser la parole de façon très volubile comme nous, mais à faire attention à son rôle social, bref, sois belle et tais-toi, elle aurait développé, cette société, une société de l'œil et de l'oreille. On communique parce qu'on comprend, mais on n'en parle pas. D'où une attention particulière aux couleurs et aux sons. Alors, je ne sais pas si c'est absolument exact, mais je me suis toujours rendu compte d'une chose tout à fait curieuse, et j'imagine que vous l'avez faite aussi. Quand vous êtes dans un autre pays, la Corée par exemple, et que vous parliez une langue et que vous ne connaissiez pas des mots, en général, vous vous taisez, vous arrêtez votre phrase, ou vous tentez quelque chose. Or, il y a un système qui est bien plus simple. Vous continuez votre phrase en français, ou en anglais, ou en zoulou, avec le ton normal de cette phrase, c'est-à-dire pas simplement des mots du dictionnaire, mais la façon dont ça s'exprime. Et vous vous rendrez compte que dans un nombre considérable de cas, je ne parle pas des mathématiques, dans un nombre considérable de cas, votre phrase bancale redevient complète. C'est-à-dire que ce que vous dites est deviné par le son de ce que vous faites. Alors je ne vous parle pas d'études mathématiques ou philosophiques, hein, je parle de la vie quotidienne, mais le ton, l'énergie. Engueuler quelqu'un en français, parce qu'il vous a marché sur les pieds dans le métro, ne vous inquiétez pas, il vous comprendra très très bien. Parce qu'il y a des choses comme le contexte, l'expression, l'expressivité, le corps. Or, l'onomatopée, c'est le corps en mots, si vous voulez. C'est le monde qui fait du bruit dans votre phrase. Et ça n'est pas parce que c'est une onomatopée qui n'existe pas, comme trum trum swa. C'est la première onomatopée coréenne, c'est l'eau qui arrive et paf, qui éclate sur les rochers. Swa, comme ça. Bon. Vous avez un poème qui vous parle de la mer, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous mette une note en bas de page et qu'on vous mette, par exemple, plouf. Et toutes ces choses-là sont parfaitement communicables. C'est-à-dire qu'il y a de l'interlangue. Toutes les langues contiennent un bout des autres. Et autant vous pouvez apprendre le coréen avec du konglish, avec du franglais coréen, autant l'apprendre avec les onomatopées, c'est une chose extraordinaire. Et nous sommes en nous, notre équipe est en train de préparer un manuel pour les petits français qui veulent apprendre le coréen. Et nous, évidemment, nous nous débordons de bandes dessinées et d'onomatopées. L'onomatopée fait que vous comprenez la page et qu'après vous l'étudiez, et pas le contraire. Vous avez un accès direct à ce qui se passe. L'onomatopée fait exactement dans la langue la même chose qu'un dessin par rapport à la compréhension. C'est une richesse pédagogique absolument extraordinaire. Vos parents vous disent « Arrête de lire ta BD, va travailler. » Vous pouvez dire « Non, je lis une BD, je suis en train de travailler. » Regardez la dureté de quantité d'onomatopées. Justement, prenez n'importe quel. Comparez un bouquin pour une BD pour enfants et une BD de guerre. Bon, c'est pas passionnant comme lecture, mais on parle de linguistique. Regardez comment les bruits sont rendus Et vous verrez bien que on demande au phonème de penser à notre place. Ça va faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, c'est censé faire du bruit, faire mal, expliquer la douleur. Bon, mais ça, n'importe quelle oreille, c'est par celle d'un tout petit, comprend parfaitement ce genre de choses. Élever la voix devant un bébé en disant une chose gentille, il se mettra à pleurer. Parce que le simple changement d'intensité est un marqueur. Il ne faut pas oublier, c'est fondamental, avec les onomatopées, nous parlons ou bien de l'écrit ou bien de l'oral. Et que c'est le rôle de la pédagogie que de bien distinguer quand c'est un outil écrit, quand c'est un écrit oral. Votre question tout à l'heure portait sur la littérature, c'est un travail d'écriture, c'est un travail de composition musicale. Mais en ce qui concerne la communication, c'est totalement autre chose. Quelqu'un qui me dit qu'il ne parle pas coréen, c'est quelqu'un qui me dit, gentiment et modestement, une bêtise. À partir du moment où il sait faire du bruit avec les lèvres, il est déjà dans la communication. Ajoutez à ça les 5000 mots d'anglais et le verbe faire, hada, et je vous garantis que vous vous débrouillez déjà très très bien en coréen. Faites l'expérience.
Je m'appelle Son Yong-do, je suis étudiant en région, je suis à l'INAI Kumingo, je suis coréen. En coréen, il y en a beaucoup. Par exemple, 기차가 칙칙 콕 달려갑니다. 토끼가 꽁충꽁충 뛰어갑니다. 거북이가 엉금엉금 기어갑니다. 호랑이가 어흥하고 웁니다. 닭이 아침에 꼭 뛰어하고 웁니다.
우리는 꽥꽥.
꽥꽥. 그다음에 돼지 소리는 모르겠는데.
꿀꿀. 꿀꿀.
애기가 응애응애하고 웁니다.